Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2, chapitre 3. Smic est présenté à Madame et Mademoiselle Nickleby. Nicolas, de son côté, fait de nouvelles connaissances. On entrevoit pour la famille des jours meilleurs. Après avoir établi sa mère et sa sœur dans l'appartement de l'excellente Miss La Creevy, après s'être assuré que la vie de Sir Mulberry Hawk n'était pas en danger, Nicolas tourna ses pensées du côté du pauvre Smic, qui, après avoir déjeuné avec Newman Nodge, était resté désolé dans la mansarde de leur ami, à attendre avec une grande anxiété des nouvelles ultérieures de son protecteur. Comme il doit à présent faire partie de notre petit ménage, partout où nous demeurerons, et quel que soit le sort que nous réserve la fortune, il faut, pensa Nicolas, que je présente le pauvre garçon en bonne et due forme. Je ne doute pas que ma mère et ma sœur ne l'accueillent favorablement pour lui-même, mais s'il fallait ajouter quelque chose à leur bonne disposition pour lui, je sais qu'elles s'y prêteront volontiers pour me faire plaisir. En disant « ma mère et ma sœur », Nicolas ne voulait parler que de sa mère, car pour Catherine, il était sûr d'elle. Mais il connaissait les faiblesses de sa mère, et il craignait que Smic ne se mît pas aussi aisément dans les bonnes grâces de Madame Nickleby. Cependant, il se disait en partant pour accomplir cette cérémonie qu'elle ne pouvait manquer de s'attacher à lui, quand elle connaîtrait sa nature dévouée et que, comme elle ne serait pas longue à s'en apercevoir, Smic n'aurait à subir qu'une courte épreuve. « J'avais peur, » dit Smic dans sa joie de revoir son ami, « qu'il ne vous fût survenu encore quelque nouvel accident. J'ai fini par trouver le temps si long que je craignais presque de vous avoir perdu. »« Perdu !» répliqua gaiement Nicolas. « N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas prêt d'être débarrassé de moi, je vous en réponds. Il m'arrivera encore plus d'une fois de remonter sur l'eau. Plus fort on pousse la balle, et plus vite elle rebondit, Smic. Mais allons, je suis chargé de vous emmener à la maison. »
« À la maison ?» balbutia Smic, reculant avec timidité.
« Eh bien oui !» répliqua Nicolas en lui prenant le bras. « Pourquoi pas ?»«
Autrefois, je ne dis pas, j'ai eu de ces rêves, jour et nuit, nuit et jour, pendant bien des années. À la maison, combien j'ai souhaité ce bonheur ! Mais j'ai fini par me lasser de mes espérances, il ne m'en restait qu'une peine plus amère. » Mais aujourd'hui...
Eh bien, quoi aujourd'hui ? Lui demanda Nicolas en le regardant avec bonté. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, mon vieux camarade ?
Je ne vous quitterai pas pour aller à la maison, où que ce fût sur la terre,
répliqua Smic en lui serrant la main.
J'en accepte un lieu seulement, un seul. Je ne deviendrai jamais vieux. Et si j'étais sûre que ce fût votre main qui me déposa dans la tombe, si je pouvais espérer avant de mourir que vous viendriez l'animer, quelquefois d'un de vos sourires si bons, si bienveillants par un beau jour d'été, quand tout serait vivant dans la nature, et non pas mort comme moi, cette maison-là, j'y retournerais volontiers sans verser une larme.
Et pourquoi songer à tout cela, mon pauvre garçon ? Si vous pouvez vivre heureux avec moi, dit Nicolas.
Parce que si je change, moi, au moins je ne verrai pas les autres changer autour de moi. S'ils m'oubliaient, j'aurais le bonheur de ne pas le savoir. Et puis au cimetière, nous nous rassemblons tous. Ici, je ne ressemble à personne. Je ne suis qu'un pauvre génie. Mais je vois bien cela.
Vous êtes un enfant, un nigo, dit Nicolas gaiement. Si c'est là ce que vous voulez dire, nous sommes d'accord. Ne voilà-t-il pas une jolie mine à présenter aux dames et à ma jolie sœur encore, sur laquelle vous m'avez tant de fois questionné ? Ah, je ne reconnais plus votre galanterie du Yorkshire. Fi, que c'est vilain !
Smic reprit sa bonne humeur et sourit. Quand je vous parle de venir à la maison, poursuivit Nicolas. C'est de la mienne que je vous parle, et par conséquent de la vôtre. Si par là j'avais voulu dire un logis en général, compris entre quatre murailles et recouvert d'un toit, qu'on appelle une maison, je serais bien embarrassée moi-même de vous en décrire la position. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit. La maison dont je parle, c'est la place où, en attendant mieux, tout ce que j'aime sont regroupés ensemble. Que ce soit la tente des bohémiens ou la grange du paysan, s'ils y sont tous, c'est ma maison. Et vous n'avez que faire, quant à présent, de vous alarmer à ce nom. Ma maison n'a rien qui doive vous effrayer, ni par son étendue, ni par sa magnificence. En même temps, Nicolas prit son compagnon par le bras, et tout en causant avec lui de cela et d'autres choses, en variant le long du chemin les sujets pour amuser son esprit et soutenir son intérêt, ils se trouvèrent à la porte de Miss La Creevy.
Et voilà, ma chère Catherine, dit Nicolas en entrant dans la chambre où sa sœur était assise toute seule. L'ami fidèle, le compagnon de voyage dévoué que je vous ai prié de recevoir.
Le pauvre Smic commença par être terriblement timide et gauche. Il avait si grand peur. Mais lorsque Catherine se fut avancée vers lui avec bonté, et qu'elle lui eut dit d'une voix pleine de douceur combien il y avait longtemps qu'elle avait le désir de le voir, d'après tout ce que lui avait dit son frère, combien elle lui devait de remerciements d'avoir été pour Nicolas une consolation constante dans leur épreuve et leur revers, alors il ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Et son embarras changea de nature sans être moins grand. Pourtant, il prit sur lui de dire d'une voix entrecoupée qu'il n'avait pas d'autre ami que Nicolas, et qu'il donnerait de bon cœur sa vie pour lui. Et Catherine, douce et sage comme elle l'était, ne pouvait pas avoir l'air de remarquer son embarras pour ne pas l'accroître. Aussi reprit-il presque tout de suite son assurance, et se trouva-t-il comme chez lui. Après cela, ce fut le tour de Miss La Creevy. Elle aussi, il fallait le lui présenter, et si Miss La Creevy était une bien bonne personne, elle avait aussi la langue bien pendue. Ce n'est pas qu'elle entreprit tout de suite Smic, elle aurait craint de le mettre mal à l'aise, mais elle s'en dédommagea avec Nicolas et sa sœur. Puis, après avoir donné à Smic le temps de se préparer, elle lui fit par-ci par-là toutes sortes de questions. « Vous connaissez-vous en portrait ? Trouvez-vous que celui-là dans le coin me ressemble ? Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il n'aurait pas perdu à me rajeunir de 10 ans. N'êtes-vous pas de mon avis? Ne trouvez-vous pas en général que les jeunes dames sont mieux, et ce n'est pas seulement en peinture, que les vieilles? Toutes observations d'une gaieté innocente et folâtre qu'elle savait assaisonner d'une humeur si joviale et si amusante, que Smic lui fit en lui-même la déclaration qu'il n'avait jamais vu de dame plus aimable, sans en excepter Madame Gruden, du théâtre de M. Vincent Crumless. Et pourtant, c'était aussi une bien aimable dame, et qui parlait peut-être encore plus, mais dans tous les cas, certainement plus haut que Miss La Creevy. Enfin, la porte s'ouvrit encore pour livrer passage à une dame en deuil, et Nicolas alla l'embrasser avec tendresse, en l'appelant sa mère. Puis, il l'amena près de la chaise d'où s'était levé Smic en la voyant entrer.
« Ma chère mère, dit Nicolas, vous êtes toujours si bonne aux affligés, si empressée à leur venir en aide, que vous ne pouvez manquer, je le sais, d'être bien disposée en sa faveur. »
« Ne doutez pas, mon cher Nicolas, répliqua Madame Nickleby, regardant sa nouvelle connaissance d'un air peu émerveillé, et lui rendant son salut avec un peu plus de majesté qu'il n'eût fallu peut-être en pareille circonstance. Ne doutez pas que nos amis aient, c'est trop juste et trop naturel, vous le savez, tout droit à mon bon accueil. Et par conséquent, que j'ai un très grand plaisir à voir tous ceux auxquels vous prenez intérêt. Cela ne peut pas faire l'ombre d'un doute.
Certainement non, pas le moins du monde. Mais en même temps, laissez-moi vous dire, mon cher Nicolas, comme je le disais toujours à votre pauvre cher père, quand il m'a mené des messieurs à dîner sans qu'il n'y eût rien à la maison, que s'il était venu seulement l'avant-veille. Aujourd'hui, ce n'est pas l'avant-veille que je dois dire, mais bien l'année dernière. Nous aurions été plus à même de les mieux recevoir. »
Après ces observations, Madame Nickleby se tourna vers sa fille et lui demanda à voix basse, mais de manière à être entendue, si ce monsieur allait passer chez eux toute la nuit.
« Car dans ce cas, ma chère Catherine, disait-elle, je ne sais pas où il serait possible de le mettre couché. Il n'y a pas de place nulle part. »
Catherine fit quelques pas vers sa mère avec sa grâce ordinaire, et sans montrer ni contrariété ni dépit, lui glissa quelques mots à l'oreille.
« Mon Dieu, ma chère Catherine !» dit Madame Nickleby, reculant de quelques pas. « Comme vous êtes tourmentante ! Croyez-vous que je ne savais pas bien cela sans que vous eussiez besoin de me le dire ?»«
Mais c'est justement ce que je viens de dire à Nicolas. Je lui ai répété que j'en étais satisfaite. »«
À propos, mon cher Nicolas, » ajouta-t-elle en se tournant vers lui d'un air moins contraint qu'auparavant, « et le nom de votre ami, vous ne me l'avez pas dit ?»«
Son nom, ma mère ?» « C'est Smic !»
Personne ne pouvait prévoir l'effet de cette réponse toute simple. Mais Madame Nickleby n'eut pas plutôt entendu prononcer ce nom qu'elle se laissa tomber sur sa chaise et se mit à pleurer sans rime ni raison.
« Qu'avez-vous ? »
s'écria Nicolas en se précipitant vers elle pour la soutenir.
« Ah ! Cela ressemble à Pic !»
cria Madame Nickleby.
« Cela ressemble tout à fait à Pic !» « Ah, qu'on ne me parle pas! Je vais être mieux, je le sens! »
Là-dessus, elle n'oublia aucun des symptômes de la pâmoison dans toutes ses phrases. Puis, se faisant verser un grand verre d'eau, dont elle prit la valeur d'une cuillère à bouche et dont elle jeta le reste, Madame Nickleby se trouva mieux. Elle s'excusa avec un sourire languissant d'être si enfant, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher.
« C'est un mal de famille, » dit Madame Nickleby. « Il ne faut donc pas m'en vouloir de ma sensibilité. Votre grand-maman, Catherine, était exactement de même, mais tout à fait de même. La moindre émotion, la plus légère surprise, et elle se trouvait mal sur le champ. Je lui ai entendu dire et redire que du temps qu'elle était demoiselle, avant son mariage, elle se tournait un jour le coin de la rue Oxford lorsqu'elle se heurta contre son coiffeur, qui se sauvait de la poursuite d'un ours. Ou bien, attendez, c'était peut-être l'ours qui se sauvait de la poursuite du coiffeur. Enfin, je n'en sais plus rien. Mais ce que je sais bien, c'est que le coiffeur était un très joli homme et qui avait même les manières très élégantes. Ce qui, du reste, ne fait rien à l'affaire.
Madame Nickleby, une fois lancée, sans s'en apercevoir dans ses accès d'humeur rétrospective, devint plus traitable à partir de ce moment. Et pour des transitions faciles dans la conversation, elle passa à une foule d'autres anecdotes qui n'étaient pas moins bien appropriées à ce sujet.
« Monsieur Smic est du Yorkshire, n'est-ce pas, mon cher Nicolas ? » dit-elle après le dîner, reprenant la parole après une assez longue pause. « C'est bien cela, ma mère, » répondit Nicolas. « Je vois que vous n'avez pas oublié sa triste histoire. »« Oh Dieu, non !» cria Madame Nickleby. « Certes, oui, une triste histoire, vous avez bien raison. » « Vous n'avez jamais eu l'occasion, monsieur Smic, » lui dit la bonne dame, « de dîner chez les Grimble de Grimble Hall, un peu au nord du comté, non ? Monsieur Thomas Grimble, un homme très fier, six grandes filles, très aimables, et le plus beau père du pays. »«
Ma bonne mère, à quoi pensez-vous ? » dit Nicolas. « Comment pouvez-vous croire que l'infortuné souffre-douleur d'un maître de pension du Yorkshire eut l'occasion de recevoir des cartes d'invitation de toute la noblesse et de la bourgeoisie du voisinage ?
Mais réellement, mon cher, je ne vois pas ce qu'il y aurait là d'extraordinaire. Je sais bien que moi, quand j'étais en pension, j'allais toujours, au moins 4 fois par an, chez les Hawkins à Taunton Vale. Et certes, ils sont beaucoup plus riches que les Grimble et alliés à leur maison par mariage. Ainsi, vous voyez bien que ce n'est pas déjà si invraisemblable que ça. »
Après avoir écrasé Nicolas par cette réponse triomphante, voilà qu'il prit tout à coup à Madame Nickleby une attaque subite de défaut de mémoire et une envie irrésistible de substituer au nom de Smic, qu'elle avait oublié, celui de Monsieur Slamond. Quand on lui fit apercevoir, elle s'en excusa sur la ressemblance étonnante des deux noms dans la prononciation.
vu qu'ils commençaient tous les deux par un S et qu'il y avait un M commun dans le mot. Smic ne fut peut-être pas fâché, comme elle, de cette ressemblance. Mais il montra tant d'attention et mit tant de complaisance à écouter Madame Nickleby qu'ils furent bientôt dans les meilleurs termes et que, sensible à cette déférence, Madame Nickleby ne tarda pas à manifester la plus haute estime pour son caractère et sa tenue en général. Le petit cercle de famille continua donc de vivre sur le pied de la plus grande agréable intimité jusqu'au lundi matin, où Nicolas se retira pour se recueillir un moment, réfléchir sérieusement à l'état de ses affaires et prendre, s'il lui était possible, un parti qui pût le mettre à même de soutenir ces objets de son affection, dont l'existence dépendait entièrement désormais de son activité et de son succès. Monsieur Crumless lui revint plus d'une fois à l'esprit. Mais si Catherine était déjà au fait de tous les détails de ses relations avec cet illustre directeur, sa mère ne l'était pas, et il prévoyait de sa part 1000 objections embarrassantes à ce qu'il choisît le théâtre pour sa carrière. Il avait d'ailleurs d'autres raisons plus graves encore de ne plus songer à reprendre ce genre de vie. Non seulement les profits en étaient médiocres et précaires, surtout s'il ne devait jamais, comme il en avait l'intime conviction, s'élever à une grande distinction, même en province, mais encore, il faudrait donc qu'il traînât sa sœur de ville en ville, de foire en foire. Quelle autre société pourrait-il lui donner que celle des gens avec lesquels il serait obligé de se mêler presque sans choix ?
Non, dit Nicolas, c'est impossible. Il faut nécessairement que je prenne un autre parti.
C'était facile à dire. Ce n'était pas facile à faire. Avec aussi peu d'expérience du monde qu'il en avait pu gagner dans ces épreuves pénibles mais courtes, avec une bonne dose de confiance téméraire et de précipitation juvénile, et une très petite somme d'argent devant lui. Pas bien riche d'argent, mais plus riche encore d'amis.
Qu'allait-il devenir ?
Parbleu, dit Nicolas, je vais retourner à mon bureau de placement. Il ne pouvait s'empêcher de rire en lui-même de voir avec quelle ardeur il se mit en marche pour l'accomplissement d'un dessein dont il blâmait intérieurement tout à l'heure la précipitation. Mais il n'en allait pas moins droit à son but, se figurant, à mesure qu'il approchait du bureau, toute espèce de chance brillante ou d'impossibilité absolue, et se disant peut-être avec raison que c'était un grand bonheur pour lui que ce tempérament impétueux et bouillant qu'il avait reçu de la nature. Le bureau paraissait exactement dans le même état que la dernière fois qu'il y était allé, et même, à deux ou trois exceptions près, il y reconnut les mêmes écriteaux à la fenêtre. C'étaient toujours les mêmes maîtres et les mêmes maîtresses, respectables, qui lui demandaient toujours des domestiques également vertueux. C'étaient les mêmes domestiques vertueux qui demandaient toujours des maîtres ou des maîtresses également respectables. C'étaient les mêmes terres magnifiques qui sollicitaient un placement de capitaux. C'étaient les mêmes capitaux incalculables qui cherchaient des terres pour garantir un bon placement. En un mot, c'était toujours la même profusion d'occasions excellentes offertes à tous les gens qui voulaient faire fortune. Et la preuve la plus éclatante de la prospérité nationale, c'est que, depuis si longtemps, il ne s'était encore présenté personne pour saisir au vol des avantages si précieux. Quand Nicolas s'arrêta devant la croisée pour y lire les annonces, le hasard voulut qu'un vieux gentleman en fît autant. Et Nicolas, en les parcourant des yeux de droite à gauche pour y découvrir quelques placards intéressants en grosse capitale, rencontra l'inconnu, dont l'extérieur provoqua sa curiosité et fit un moment suspendre ses recherches pour l'examiner de plus près. C'était un gros bel homme de bonne mine, portant un habit bleu à large pan, ample et aisé, sans taille, pour ainsi dire, pour plus de commodité. Une culotte courte et de grande guêtre sur ses jambes robustes. Sur la tête, un chapeau blanc, bas de forme, à large bord, comme en porte un riche campagnard. Il avait son habit boutonné, Son double menton avec ses nombreuses fossettes s'étalait à l'aise dans les plis d'une cravate blanche. Non pas une de vos cravates apoplectiques, toutes roides, mais une de ces bonnes, vastes cravates blanches du temps jadis, avec lesquelles on pouvait aller se coucher sans crainte de s'étrangler. Mais ce qui attira principalement l'attention de Nicolas, c'était l'œil de ce brave homme. Un œil clair, scintillant, honnête, un œil heureux et content. Il était donc planté là, debout, le nez en l'air, une main dans le revers de son habit, l'autre jouant avec sa chaîne de montre en or, contemporaine de sa jeunesse. La tête un peu de côté, et le chapeau encore plus de côté que la tête. Mais ce n'était que par accident. On voyait bien que ce n'était pas sa posture habituelle. Le tout relevé d'un sourire agréable qui se jouait autour de ses lèvres. Avec une expression comique de finesse, de simplicité, de bonté, de bonne humeur. Tout ensemble confondu dans la physionomie vive et enjouée de ce vieillard appétissant. Aussi, Nicolas serait resté là à le regarder jusqu'à demain, oubliant volontiers toutes les mines revêches et les visages bourrus qui ne sont pas rares sous la calotte des cieux. Mais il n'eut pas le temps de prolonger beaucoup son plaisir, car l'étranger, sans avoir l'air de se douter qu'il fût devenu l'objet du regard observateur de Nicolas, jeta par hasard les yeux sur lui, ce qui lui fit naturellement ramener les siens vers les séductions des affiches collées à la fenêtre, pour ne pas le blesser par une curiosité indiscrète. Cependant, le gentleman ne bougeait pas de là, laissant errer ses yeux d'un placard à l'autre, sans que Nicolas osât lever la tête pour le considérer davantage. Sous ses dehors singuliers et bizarres, c'était plaisir de voir l'air le plus avenant du monde. Il semblait que tout parlât en sa faveur. C'était un de ces portraits où les lumières, habilement distribuées par l'artiste dans le coin de la bouche et dans les plis des yeux, ne piquent pas seulement l'intérêt du spectateur, mais lui font aimer le modèle en personne. Cela posé, vous ne serez pas surpris que Nicolas se donna le plaisir de le considérer et que le gentleman le prit plus d'une fois sur le fait. À chaque fois, Nicolas rougissait d'un air embarrassé, car le fait est qu'il s'était déjà demandé si, par hasard, l'étranger ne serait pas venu là chercher un employé ou une secrétaire, et lui semblait que, dans ce cas, le vieux monsieur devait lire son secret écrit sur sa figure. Tout cela fut l'affaire de quelques minutes, bien que les détails en soient plus longs dans un conte. L'étranger allait partir quand Nicolas, rencontrant ses yeux, se vit pris encore une fois en flagrant délit et, dans son embarras, balbutia un mot d'excuse. « Il n'y a pas de mal à cela, oh mon Dieu, il n'y a pas de mal !» dit le bon vieillard. Ces paroles furent dites d'un ton si amical et d'une voix qui répondait si bien à la bonne mine de l'étranger, enfin avec une telle cordialité de manière, que Nicolas se sentit encouragé à dire quelques mots de plus. « Voilà un grand choix de bonnes occasions, monsieur, » dit-il avec un demi-sourire et montrant la croisée du bureau. « Oui, il y a déjà bien des gens à la recherche d'un emploi qui s'y sont laissés prendre. Ce n'est pas aujourd'hui, ma foi. Les pauvres garçons, les pauvres garçons !» En même temps, il se mit en route. Mais croyant voir que Nicolas ouvrait la bouche pour lui parler, il ralentit complaisamment son pas, comme s'il ne voulait pas le désobliger en le quittant trop brusquement. Il y eut donc entre eux un moment de cette hésitation que l'on voit quelquefois dans la rue entre deux passants qui se sont fait de la tête un signe de reconnaissance, mais qui ne savent pas trop s'ils doivent revenir sur leurs pas pour s'aborder ou s'ils doivent continuer leur chemin. Nicolas finit pourtant par se trouver côte à côte avec le vieux gentleman.
« Vous vouliez parler, jeune homme ? Qu'est-ce que vous vouliez me dire ?»«
Oh, rien ! Seulement que j'espérais presque, ou plutôt, que je m'imaginais que vous aviez quelque raison de venir consulter ces annonces. »
Ah, et quelle raison ? Voyons, quelle raison ?
Répliqua le bon vieux en jetant un regard en coulisses à Nicolas.
« Vous pensiez peut-être que je venais chercher une place, hein ? N'est-ce pas vrai ?»
Nicolas secoua la tête vivement pour combattre cette supposition.
« Ha ha !» dit en riant le gentleman qui se frottait et se tordait les mains comme un linge qui sort de la lessive. « Dans tous les cas, il n'y avait pas de mal à vous de le croire, en me voyant examiner tous ces écriteaux.
Moi, dans le commencement, j'en ai pensé autant de vous, ma parole. Ainsi, vous voyez bien. »
Vous pouviez le croire au commencement comme à la fin, monsieur, sans avoir peur de vous tromper, répliqua Nicolas.
Comment ? Cria le vieux gentleman, le considérant des pieds à la tête.
Il n'est pas Dieu possible. Non, non, un jeune homme de bonne mine comme vous, réduit à cette extrémité. Oh non, 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 non.
Nicolas le salua et, lui souhaitant le bonjour, tourna les talons.
Un moment,
dit l'autre en lui faisant le signe de le suivre dans une rue de traverse pour causer plus commodément, sans crainte d'être interrompu.
Qu'est-ce que vous dites là ?
Mon Dieu, voilà tout simplement la chose, votre air de bonté et vos manières si peu semblables à tout ce que j'ai rencontré jusqu'ici m'ont arraché l'aveu que je vous ai fait et que, pour tout au monde, je n'aurais jamais eu l'idée de faire à aucun autre inconnu dans ce désert de Londres.
Désert ? Ah oui, ça, c'en est un. C'en est bien un, oui. Certes, oui, c'est un désert,
dit le vieillard avec beaucoup de chaleur.
Il fut un temps où c'était un désert aussi pour moi. J'y suis venu pieds nus. Je ne l'ai jamais oublié, Dieu merci.
Et il leva son chapeau d'un air grave pour honorer le nom de Dieu qu'il invoquait.
« Voyons, qu'avez-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Comment cela se fait-il »
dit-il en posant sa main sur l'épaule de Nicolas et remontant la rue avec lui.
« Je vois que vous êtes... n'est-ce pas ?»
Et il mit le doigt sur le manche de l'habit de deuil de l'orphelin.
« De qui ? Dites-le-moi. »
« De mon père, » répondit Nicolas.
« Ah ! » dit le vieux gentleman avec vivacité. « C'est bien triste pour un jeune homme d'avoir perdu son père. Et la mère restée veuve, peut-être ? »
Nicolas répondit par un soupir.
« Avec des frères et sœurs, n'est-ce pas ? » ?»«
Une sœur, » répliqua Nicolas.
« Pauvre enfant ! Pauvre enfant ! L'éducation est une grande chose, une bien grande chose. Moi, je n'en ai pas reçu. Je ne l'en apprécie que mieux chez les autres. Oh oui, c'est une bien belle chose. Contez-moi votre histoire. Je veux tout savoir. Et surtout, ne croyez pas que ce soit une sotte curiosité. Non, non, non. »
Il y avait dans son langage un entrain si bienveillant, un mépris si complet de toutes ses réserves de conventions froides et compassées, que Nicolas ne put résister à cet appel. Entre gens qui ont des qualités de cœur franches et solides, il n'y a rien qui se gagne comme la confiance et le besoin d'un épanchement réciproque. Nicolas s'y abandonna avec effusion. Il n'oublia dans son récit aucun des points importants à connaître. Il ne supprima que les noms et glissa le plus légèrement qu'il lui fut possible sur les torts de son oncle avec Catherine. Le bon vieillard l'écoutait avec une attention soutenue. Et quand il eut fini, il lui prit le bras sous son bras.
« Pas un mot de plus, pas un mot. Venez avec moi, nous n'avons pas une minute à perdre. »
En même temps, il le ramenait dans la rue d'Oxford, arrêta un omnibus, y poussa Nicolas et monta derrière lui. Comme il paraissait dans un état extraordinaire d'émotion et de trouble, et qu'il fermait la bouche à Nicolas à chaque fois qu'il allait parler, en lui répétant «
« Pas un mot de plus, mon cher monsieur, pour rien au monde, pas un mot de plus. »
Nicolas crut devoir renoncer à toute explication. Ils firent donc le voyage de la cité sans échanger une parole. Et plus ils avançaient, plus Nicolas était embarrassé de deviner comment il finirait l'aventure. Une fois devant la banque, Le vieux gentleman descendit avec la même vivacité et, reprenant le bras de Nicolas, l'entraîna dans la rue de Threadneedle, tourna des ruelles, enfila des passages à droite, tant qu'enfin ils aboutirent à un petit square frais et tranquille. Il le mena droit à une maison de commerce, la plus propre, quoique la plus antique de toute la place. La porte n'avait pas d'autre inscription que ces mots. « Cheeryble, frère !» Mais un coup d'œil rapide jeté par Nicolas sur des ballots déposés près de là lui fit supposer que les frères Cheeryble étaient des négociants allemands. Là, traversant un magasin qui présentait l'apparence d'un commerce actif et prospère, M. Cheeryble, car Nicolas n'hésita pas à lui demander ce titre en voyant le respect que lui témoignaient sur son passage les employés et les commissionnaires, le conduisit dans un petit comptoir formé par des cloisons vitrées, une espèce de cage de verre où l'on voyait assis tout frais et tout propre, comme si on l'y avait renfermé dans le temps, avant d'en poser le couvercle, sans qu'il en fût jamais sorti, un commis, déjà sur l'âge, gras, joufflu, avec des lunettes d'argent et des cheveux poudrés.
« Timothée, mon frère est-il dans son cabinet ?» dit M. Cheeryble avec la même douceur dans les manières que lui connaissait déjà Nicolas.
« Oui, monsieur, il y est, » répondit le gros commis, tournant ses lunettes vers son patron et ses yeux vers Nicolas.
« Mais il est avec monsieur Trimmers. »«
Ah, et savez-vous pourquoi est venu monsieur Trimmers ?»«
Il fait une souscription pour la veuve et les enfants d'un homme qui s'est tué ce matin dans les docks des Indes orientales, écrasé par une tonne de sucre. »«
L'excellent homme !» dit monsieur Cheeryble avec enthousiasme. « Le brave homme !» « J'ai bien des obligations à Trimmers, c'est un de nos meilleurs amis. »«
C'est toujours lui qui nous fait connaître une foule de cas que nous pourrions jamais découvrir par nous-mêmes. »« J'en suis bien reconnaissant à Trimmers. »
Et M. Cheeryble se frotta les mains avec délice, et quand M. Trimmers vint à passer pour s'en aller, il courut après lui, l'arrêta sur le pas de la porte et le prit par la main.
« Je vous dois 1000 remerciements, 10 000 remerciements. » « C'est une vraie marque d'amitié de votre part, une vraie marque d'amitié !»
dit M. Cheeryble, l'attirant dans un coin pour n'être pas entendu.
« Combien y a-t-il d'enfants, et qu'est-ce que mon frère Ned a donné pour eux, Trimmers ?»«
Il y a 6 enfants, et votre frère nous a donné 500 francs. »«
Mon frère Ned est un brave homme, et vous aussi, Trimmers, vous êtes un brave homme !»
dit le vieux gentleman en lui prenant les mains dans les siennes, tout semblant d'émotion.
« Inscrivez-moi aussi pour 500 francs. Ou bien une minute, une petite minute. Il ne faut pas que nous ayons l'air d'y mettre de l'ostentation. Inscrivez-moi pour 250 francs. Et Tim Linkywater pour 250 francs aussi. Timothée, faites une traite de 500 francs au nom de M. Trimmers. Que Dieu bénisse votre charité, Trimmers. » « Mais venez donc dîner quelques jours de cette semaine avec nous. Vous trouverez toujours votre couvert sur la table et des gens charmés de vous recevoir. Bonjour, mon cher monsieur. »« Timothée, une traite pour monsieur Trimmers. »« Écrasé par une tonne de sucre et 6 pauvres enfants. Mon Dieu, mon Dieu !»
Toutes ces paroles étaient prononcées aussi vite que possible par monsieur Cheeryble, pour prévenir les remontrances amicales qu'aurait pu lui faire le collecteur de la souscription sur le chiffre élevé de son offrande. Et pour y échapper plus sûrement, il se hâta d'emmener Nicolas, non moins ému qu'étonné de ce qu'il venait de voir et d'entendre, en si peu de temps. Il l'emmena donc vers une porte entrouverte d'un cabinet voisin.
« Frère Ned ?» dit M. Cheeryble, frappant à la porte avec le revers de ses doigts et se balançant pour écouter la réponse. « Êtes-vous occupé, mon cher frère? Avez-vous le temps que je vous dise deux mots ?»« Frère Charles, mon bon ami !» répondit une voix dont l'intonation était si semblable à l'autre que Nicolas tressaillit et fut tenté de croire que c'était la même. « Entrez donc tout de suite sans frapper et sans me faire de pareilles questions !»
En effet, ils entrèrent sans plus attendre. L'étonnement de Nicolas redoubla de plus en plus quand il vit frère Charles échanger un salut chaleureux avec un autre gentleman du même type et du même modèle. Même figure, même stature, même gilet, même cravate, même guêtre et même culotte. Enfin, même chapeau blanc accroché à la muraille. Pendant qu'ils se donnaient une poignée de main, leurs deux figures s'animaient d'un regard d'affection tendre, dont on aurait aimé l'innocence dans les traits même d'un enfant, et qui, chez les vieillards, semblait bien plus saisissant encore. Pourtant, malgré leur ressemblance, Nicolas remarqua que le dernier était un peu plus épais que son frère. C'était, avec une légère nuance de plus d'originalité dans sa démarche et dans sa tenue, la seule différence sensible qui les distingua. À tout prendre, c'était bien deux jumeaux. Personne n'aurait pu s'y tromper.
« Frère Ned, » dit le protecteur de Nicolas après avoir fermé la porte, « voici un jeune homme de mes amis auquel il faut que nous venions en aide. Nous allons commencer, pour lui comme pour nous, par prendre des renseignements sur les détails qu'il m'a confiés. Et s'il se confirme, comme je n'en ai aucun doute, il faut que nous l'aidions, frère Ned. »
« Mais, mon cher frère, il suffit de ce que vous me dites, » répliqua l'autre.
« Il n'est pas besoin de renseignements auprès de vous. Ainsi nous l'aiderons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que demande-t-il? Où est Tim Linkywater? Faisons-le venir pour conférer avec nous. »
Pour compléter leur ressemblance, les deux frères avaient, dans leur langage, la même chaleur et la même vivacité. Ils avaient perdu tous les deux les mêmes dents, je pense, ce qui leur donnait une prononciation uniforme. Et quand ils parlaient, ce n'était pas seulement avec cette bonhomie parfaite que donne une grande sérénité d'âme. On aurait dit qu'au banquet où les avait confiés la fortune, ils avaient choisi dans le pudding servi sur leur table des raisins de Corinthe les plus sucrés pour en garder dans leur bouche quelques grains qui donnaient plus de douceur à leurs paroles.
« Où est Tim Linkywater ?» dit le frère Ned.
« Un moment, un moment !» dit le frère Charles en prenant l'autre à part. « J'ai une idée, mon cher frère, j'ai une idée. Voilà que Tim se fait vieux, et Tim a toujours été un serviteur fidèle. Et je ne crois pas que d'attendre la mort du pauvre garçon pour lui élever un petit tombeau de famille et donner une pension à son père et à sa mère... ce fut une récompense suffisante pour ses bons et loyaux services.
« Non, non, » répliqua l'autre, « certainement non. Nous n'aurions pas fait la moitié de notre devoir. » « Eh bien, si nous pouvions alléger sa besogne et le décider à aller de temps en temps coucher et prendre l'air à la campagne, ne fût-ce que deux ou trois fois la semaine, et cela serait facile s'il voulait seulement venir à son travail une heure plus tard le matin, le vieux Linkywater rajeunirait, j'en suis sûr. Et vous savez qu'il a trois bonnes années de plus que nous. Voyez-vous cela, cher frère Ned, hein? Le vieux Tim Linkywater rajeunit. Dame, je me rappelle avoir vu le vieux Tim Linkywater, petit garçon comme nous. Ah, le pauvre Tim!
Et les bons vieux camarades se mirent à rire aux éclats. Tous deux la larme à l'œil, en pensant au vieux Tim Linkywater.
Mais écoutez d'abord, frère Ned,
dit l'autre avec chaleur, en s'asseyant ainsi que son frère avec Nicolas au milieu d'eux.
Je m'en vais vous conter tout cela moi-même parce que le jeune homme est modeste et bien élevé, Ned. Je ne voudrais pas lui faire recommencer son histoire tout du long, comme si c'était un mendiant ou que nous eussions l'air de mettre en doute sa véracité. « Non, non, ce ne serait pas bien. »« Non, non !»
répéta le frère Ned avec un signe de tête plein de gravité.
« Vous avez raison, mon cher frère, vous avez raison. »« C'est donc moi qui vais parler à sa place. Il me reprendra si je me trompe, et en attendant, vous verrez, frère Ned, et vous en serez touché que son histoire nous rappelle la nôtre quand nous sommes venus tous les deux, jeunes et sans amis. » Gagner notre premier shilling dans cette grande cité.
Les deux jumeaux se serrèrent la main en silence,
et le frère Charles raconta, avec sa simplicité familière, les détails qu'il avait recueillis de la bouche de Nicolas. Après cela, la conversation fut longue, et quand elle fut terminée, il y eut une conférence secrète qui ne fut guère plus courte entre frère Ned et Tim Linkinwater dans une autre chambre. Nous devons dire, à l'honneur de Nicolas, qui n'avait pas passé 10 minutes avec les deux frères, qu'attendri par l'expression nouvelle répétée de leur bonté et de leur sympathie, il lui était impossible d'y répondre autrement que par des gestes de remerciement, tant il sanglotait comme un enfant. Si bien donc que le frère Ned et Tim Linkinwater revinrent ensemble, et Timothée, à l'instant, s'approcha de Nicolas et lui dit, en deux mots à l'oreille, Tim n'était pas un grand bavard, qu'il avait pris son adresse dans le Strand et qu'il passerait chez lui le soir même, à 8 heures. Après quoi, Timothée essuya ses lunettes et les remit devant ses yeux pour se préparer à entendre ce que les frères Cheeryble pouvaient bien avoir encore à lui dire. « Timothée, dit le frère Charles, vous savez que nous avons l'intention de placer ce jeune homme au comptoir. » Le frère Ned répondit que Timothée en était prévenu et qu'il approuvait leur résolution. Timothée fit un signe de tête affirmatif et se redressa de manière à paraître plus gras encore et plus important que d'habitude. Il y eut ensuite un profond silence que Timothée rompit tout à coup de l'air le plus résolu. « Oui, mais je ne veux pas venir, vous savez, 1 heure plus tard au bureau. Je ne veux pas aller coucher et prendre l'air à la campagne. Non, 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 ne parlons pas de campagne. Ce serait joli par le temps qui court. Oui, ma foi, ah bien !»« Diantre d'obstiné !» dit le frère Charles en le regardant sans la moindre étincelle de colère, ou plutôt avec une physionomie toute rayonnante de son attachement pour le vieux commis. « Diantre d'obstiné ! Que voulez-vous dire, monsieur ?»«
Je veux dire, répondit Timothée, que voici 44 ans. » Et pour faire ce calcul, il avait la plume à la main, dont il traçait dans l'air une addition imaginaire avant d'en avoir fait le total. « 44 ans au mois de mai prochain que je tiens les livres de Cheeryble frère. Tous les matins, excepté les dimanches, à 9 heures sonnantes, j'ai été là pour ouvrir la caisse. Tous les soirs, à 10h30, excepté les jours du courrier étranger, parce que ces jours-là, je ne pouvais pas partir avant 11h40, j'ai fait le tour de la maison pour m'assurer que les portes étaient fermées et les feux éteints. Je n'ai pas découché une seule fois de ma mansarde sur le derrière. Voici, là, au milieu de la fenêtre, la même caisse de réséda avec les mêmes pots de fleurs, 2 de chaque côté que j'ai apportés avec moi en entrant ici. Il n'y a pas, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, non, il n'y a pas dans le monde un square comme celui-ci. Quand je vous dis qu'il n'y en a pas, continua Timothée avec un redoublement d'énergie et un sérieux risible, c'est qu'il n'y en a pas. Pour le plaisir comme pour les affaires, en hiver comme en été, peu importe, il n'y a rien de pareil. Il n'y a pas dans toute l'Angleterre une fontaine aussi belle que la pompe de la cour. Il n'y a pas dans toute l'Angleterre une si belle vue que la vue de ma fenêtre. Tous les matins, j'en ai joui avant de me faire la barbe. Et par conséquent, je dois la connaître. Voilà la chambre, ajouta Timothée, dont l'émotion altérait un peu la voix, où j'ai couché 44 ans. Et si cela ne vous gênait pas et ne dérangeait en rien vos affaires, c'est là que je voudrais mourir avec votre permission.
Diantre de Tim Linkinwater, ne voilà-t-il pas qu'il parle de mourir ?
Crièrent à la fois, comme de concert, les deux jumeaux en se mouchant avec violence.
Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur Edwin et monsieur Charles, dit Timothée en reprenant sa pose majestueuse. Ce n'est pas la première fois que vous me parlez de me mettre à la retraite, mais que ce soit la dernière, je vous en prie, et qu'il n'en soit plus jamais question.
Là-dessus, Tim Linkinwater se retira fièrement pour se renfermer dans sa cage de verre, de l'air d'un homme qui leur avait dit leur fait et qui était fermement résolu à n'en rien rabattre.
Les frères échangèrent quelques coups d'œil et toussèrent une douzaine de fois avant de dire mot.
« Cela n'empêche pas, frère Ned, reprit l'autre avec chaleur, qu'il faut lui faire prendre un parti. Tant pis pour ses vieux scrupules, cela devient insupportable. Il aura beau dire, nous en ferons notre société, frère Ned. Et s'il ne veut pas se rendre à l'amiable, nous l'y forcerons par la violence.
Vous avez bien raison, répliqua l'autre frère, secouant la tête comme un homme bien décidé.
Vous avez bien raison, mon cher frère. S'il ne veut pas entendre raison, eh bien, nous le ferons malgré lui, et nous lui montrerons que nous savons faire respecter notre autorité.
Nous aurons une querelle avec lui, frère Charles.
Oui, certainement, nous l'aurons, dit l'autre. Nous aurons une querelle avec Tim Linkinwater.
Mais en attendant, mon cher frère, nous retenons là notre jeune ami pendant que sa pauvre mère et sa sœur sont peut-être inquiètes de ne pas le voir revenir.
Souhaitons-lui le bonjour pour le moment.
Et, tenez, mon cher monsieur, ne perdez pas cette petite boîte.
Et, non, non, pas un mot de remerciement. Prenez garde seulement dans les rues en passant dans la foule.
Et les deux frères se dépêchèrent de lui ouvrir la porte, tout en l'ahurissant par des paroles décousues et sans suite, comme celle-là, pour arrêter l'expression de sa reconnaissance, lui donnant des poignées de main tout le long du chemin en le reconduisant, et en feignant avec très peu de succès, car il n'était pas très habile à feindre, de ne pas du tout s'apercevoir des sentiments auxquels il était en proie. Nicolas, en effet, avait le cœur trop plein pour se montrer au dehors avant de s'être un peu remis. Enfin, il quitta le coin de la porte dans lequel il s'était tenu caché pour dominer son émotion. Et il surprit, en se glissant dans la rue, les yeux des deux frères qui le regardaient à la dérobée, dans un coin de la cage de verre où, sans doute, il délibérait s'il poursuivrait sans délai l'assaut livré à Tim Linkinwater, ou si, devant une si belle défense, il lèverait le siège pour le moment. De raconter le bonheur et la surprise qui vinrent animer la vivacité de Miss La Creevy au récit de cette aventure, de décrire tout ce qui put, en conséquence, ou fait, ou dit, ou pensé, ou espéré, ou prophétisé, ce serait dépasser les bornes de notre cadre et ralentir notre marche. Disons seulement, en peu de mots, que M. Timothy Linkinwater arriva à l'heure exacte de son rendez-vous, que malgré son originalité, malgré le soin jaloux avec lequel il veillait à ce que la libéralité sans bornes de ses patrons ne fût pas mal placée, il crut devoir leur faire sur Nicolas le rapport le plus favorable, et que, dès le lendemain, le jeune aspirant fut nommé au siège vacant dans le comptoir des frères Chiribol, aux appointements de 1000 écus par an.
« Et qu'en dites-vous, cher frère ?» dit le premier protecteur de Nicolas. « Si nous leur louions ce petit cottage de Bow, maintenant vacant, à un prix un peu moins élevé que le prix ordinaire.
« Hein, frère Ned ?»«
Gratis même !» dit le frère Ned. « Nous sommes riches, et franchement, ce serait une honte de toucher d'eux le prix d'un loyer dans l'état où ils sont.
Logeons-les pour rien du tout, mon cher frère, pour rien du tout !»«
Frère Ned, il vaudrait peut-être mieux demander quelque chose. » reprit l'autre avec douceur.
« Ce serait un moyen de leur faire conserver des habitudes d'économie, voyez-vous, et aussi de ne point les accabler du poids d'une reconnaissance excessive pour les obligations qu'ils croiront nous devoir.
Nous pourrions mettre le loyer à 400 ou 500 francs,
et s'il nous était payé exactement, nous le capitaliserons de manière ou d'autre à leur profit.
Je pourrais même, en secret, faire à titre de prêt une petite avance de fonds pour leur procurer un mobilier.
Et vous, frère Ned, vous en feriez peut-être autant de votre côté.
Et si nous sommes contents d'eux, comme je l'espère,
n'ayez pas peur, nous changerons le prêt en un don pur.
Mais doucement, frère Ned, petit à petit pour ne pas les humilier.
Eh bien, qu'en dites-vous, frère ?
Frère Ned n'eut garde de contredire d'aussi bonnes raisons. Au contraire, il eût regretté plutôt de ne pas les avoir trouvés lui-même. En moins de 8 jours, Nicolas fut installé dans sa place, et Madame Nickleby avec Catherine dans leur petite maison. Que d'espérance, de mouvement, de contentement en une semaine.
Mais celle qui suivit ne fut pas moins heureuse dans le cottage. Ce fut une semaine de découvertes et de surprises. Tous les soirs au retour de Nicolas, on avait trouvé quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'était un pied de chasselas. Demain, une marmite. Une autre fois, c'était la clé du parloir sur le devant qu'on avait repêchée au fond de la fontaine. Et ainsi de suite, tous les jours. Après cela, cette chambre-ci fut embellie de rideaux de mousseline. Celle-là devint presque élégante grâce à une jalousie nouvelle. Enfin, on n'aurait jamais cru possible auparavant, disait-on, d'en faire quelque chose de si joli. Ce n'est pas le tout. Et Miss La Creevy, donc, qui était venue en omnibus passer un jour ou deux à les aider, et qui était toujours à courir après un petit paquet de papier gris, dans lequel elle avait apporté des pointes pour les clouer avec un grand marteau, les manches retroussées jusqu'au coude, trottant partout, trébuchant à chaque marche, culbutant dans les escaliers et se frottant la place, et Madame Nickleby qui faisait beaucoup de bruit et peu de besogne, et Catherine qui s'occupait, sans bruit, partout, et s'émerveillait de toutes choses, et Smic qui entretenait le jardin à ravir, et Nicolas qui aidait et encourageait tout son monde. Enfin, la paix, la joie du bonheur domestique revenu au logis. Avec cette saveur piquante que communique au plaisir simple et ces délices que peuvent seulement donner à la famille désormais réunie le souvenir de la séparation et du malheur. Bref, les Nickleby pauvres étaient unis et heureux, pendant que Nickleby le riche était seul et misérable.